journal, Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous. À campagne européenne, communication européenne, interview à la télévision italienne hier soir, tribune dans 28 journaux européens ce soir et demain. Emmanuel Macron donne le coup d'envoi de la campagne européenne de la majorité et ne cherchez pas la vraie tête de liste. C'est lui, nous dira Cyril Graziani. Lui aussi lance sa campagne, mais il est muet et invisible. Abdelaziz Bouteflika, candidat pour un cinquième mandat de président en Algérie. Il annonce des concessions. S'il est élu, il ne finira pas le mandat. C'est carnavalesque, lui répondent les Algériens. À suivre, l'administration se prononce aujourd'hui sur le plan de départ pour les salariés de Ford à Blanquefort. Le constructeur américain parle de conditions avantageuses. 8h20, le grand entretien de France Inter. Nicolas, vous recevez la ministre des Transports.
Oui, Elisabeth Borne, l'invitée du grand entretien de la matinale. Dialoguez avec elle, 01 45 24 7000.
Du nouveau pour nos yeux. Un jour, peut-être, on soignera la myopie avec des gouttes. Du nouveau pour nos oreilles, le nouveau disque de la pianiste Shani Di Luca qui joue du Bach fils. Vous entendrez, c'est splendide.
France Inter.
Comme si le grand débat ne suffisait pas en France, Emmanuel Macron se lance dans la campagne des européennes. Hier soir, le président de la République répondait aux questions de la RAI, la télévision italienne. Il a évoqué bien sûr les relations entre Paris et Rome, mais surtout, il a parlé d'Europe. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Hier soir, le président de la République a lancé sa campagne pour les élections européennes. Il se met au centre du jeu avec un discours très dense.
Ah oui, et ceux qui avaient encore des doutes et à ceux qui se demandaient qui serait la tête de liste d'En Marche aux Européennes, eh bien elle s'appelle Emmanuel Macron. Hier soir, le chef de l'État a repris l'offensive diplomatique et médiatique en faveur d'une Europe forte, unie et souveraine, mise au second plan pour cause de crise des Gilets jaunes et de grand débat national. Et ça a commencé par une tentative de réconciliation avec l'allié historique italien, sans jamais citer nommément ses ennemis, le duo Salvini-Di Maio. Emmanuel Macron évoque un malentendu, mais met en garde contre la tentation du repli nationaliste, le président français sur la RAI, traduit en italien. Emmanuel Macron explique que nous arrivons à un moment où nos démocraties peuvent disparaître. Nous sommes sur un volcan, dit-il. Moi, j'ai la conscience du tragique. Je vois ce qu'il se passe. Je me bats de toutes mes forces. La démocratie est un système fragile.
Voilà pour le premier étage de la fusée européenne, Cyril Graziani. Le deuxième étage, c'est pour ce soir et demain matin.
Emmanuel Macron devrait répéter ce message dans la presse quotidienne régionale, mais aussi dans les autres pays européens. Son texte a été traduit dans toutes les langues et proposé aux principaux quotidiens des États membres, vendu par l'Élysée comme son intervention la plus forte depuis le fameux discours de la Sorbonne du 26 septembre 2017 qui fixait les grandes lignes de son projet européen. Mais depuis, le soufflet est retombé entre les tentations nationalistes et de repli de certains États membres, l'approche du Brexit et une fragilisation de Merkel en Allemagne. En redescendant lui-même dans l'arène, Emmanuel Macron montre qu'il n'a pas renoncé au leadership européen. Il va mettre sur la table ses propositions pour tenter de donner le « là » de la campagne avec un concept clé, l'Europe qui protège.
Merci beaucoup Cyril Graziani du service politique de France Inter. Emmanuel Macron hier a invité son homologue italien le 2 mai prochain au Clos Lucé à Amboise pour célébrer les 500 ans de Léonard de Vinci, le génial inventeur qui réconciliera peut-être ces deux patries 500 ans après. L'Union européenne est là à pousser des partis d'extrême droite. Élections législatives en Estonie hier. Les libéraux de centre droit remportent le scrutin, mais l'extrême droite double son score en 4 ans. Elle obtient 18% des voix dans une Estonie où le chômage est très bas et l'économie très dynamique.
Il est 8h04, situation baroque en Algérie.
Il était un peu plus de 19h hier soir quand la présentatrice du journal télévisé francophone a lu un communiqué.
Le candidat Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle du 18 avril a rendu public aujourd'hui une lettre au peuple algérien dont voici le contenu.
Déclaration de candidature d'Abdelaziz Bouteflika, il brigue un cinquième mandat de président et cela malgré sa santé fragile, ses 20 ans de pouvoir et ses 82 ans. Bonjour Thibaut Cavaillès.
Bonjour Frédéric.
On s'attendait à cette nouvelle candidature, Bouteflika fait des concessions. S'il est élu, il dit qu'il n'ira pas au bout d'un nouveau mandat, mais cela n'a pas suffi à calmer la rue Thibaut.
Et oui, et même si l'annonce a été faite en fin de journée, peut-être pour éviter que les Algériens qui s'y opposent ne descendent dans la rue, eh bien c'est raté. Dans la soirée, dans la nuit, et à Alger, Béjaïa, Mostaganem, des milliers de gens, dont Azedine, un jeune Algérois que j'ai pu joindre en pleine manifestation, c'était minuit environ.
On est là pour dire non à ce pouvoir, non au cinquième mandat, non à ce système qui est en train de ridiculiser ce peuple et qui a ridiculisé en fait son image à travers le monde. Et on est là pour dire non, qu'on n'est pas ridicule, on n'est pas débile, qu'on est conscient de ce qui se passe.
Thibault, on le disait, Abdelaziz Bouteflika a fait quelques concessions, entre guillemets. De quoi s'agit-il ?
Alors, le président qui écrit avoir entendu le cri du cœur des manifestants, en particulier celui des jeunes, il dit vouloir apaiser ses compatriotes et promet donc, s'il est élu le 18 avril prochain, une conférence nationale pour préparer des réformes politiques, institutionnelles, économiques, sociales et l'organisation d'une élection présidentielle anticipée pour laquelle il s'engage à ne pas être candidat, ce qui en rajoute à l'absurde, hein, selon l'historienne franco-algérienne et directrice de recherche au CNRS, Karima Diresh.
On en rajoute encore une couche, c'est-à-dire que voilà, je vais me présenter et puis je prends l'engagement que dans un an, j'organise des élections présidentielles dans lesquelles je ne serai pas candidat. Il y a quelque chose de carnavalesque, en fait. On a affaire à une espèce de mascarade dramatique. Je dirais presque que c'est quasiment uberois, mais sans l'humour qui caractérise uberois. Oui, là, on a quelque chose un peu kafkaïen.
Alors attention, Frédéric, il faut maintenant surveiller, hein, toutefois du côté du Conseil constitutionnel. Une condition n'a pas été remplie hier soir. Abdelaziz Bouteflika n'a pas présenté en personne sa candidature et pour cause, il est toujours hospitalisé en Suisse, ce qui est pourtant obligatoire selon les textes.
Thibaut Cavaillès, merci beaucoup. J'ajoute que beaucoup de candidats se sont retirés ces dernières heures, notamment l'ancien Premier ministre Ali Benflis. Il était sans doute l'opposant le plus crédible à Bouteflika. Il annonce qu'il retire sa candidature à une élection qui n'a plus lieu d'être. La situation en Algérie, on en reparle dans 10 minutes avec Anthony Bélanger dans Un jour dans le monde à 18h15 et quand vous le voulez sur franceinter.fr. Quand un peuple conspue son président, nous sommes au Venezuela où une partie de la population demande le départ de Nicolas Maduro. Son principal opposant, Juan Guaido, doit rentrer aujourd'hui au pays après une tournée de 10 jours en Amérique latine. Il veut manifester cet après-midi mais les autorités menacent de l'arrêter. Au moins 23 morts après le passage de tornades sur l'Alabama dans le sud-est des États-Unis. En France, 44 départements sont placés en alerte orange au vent violent. En Bretagne, dans les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le centre, les Pays de la Loire, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Vigilance également dans le département de l'Allier. En Île-de-France, en ce moment, la circulation des trains est très compliquée sur la ligne P entre Paris et Provins et elle est totalement interrompue sur la ligne L entre Saint-Cloud et Saint-Nom-la-Bretèche. Ford prépare la fermeture de l'usine de Blanquefort. 850 emplois sont menacés dans cette commune au nord de Bordeaux. Le gouvernement demande à Ford de réindustrialiser le site, mais le constructeur prépare surtout son plan de départ. Les services du ministère du Travail doivent se prononcer aujourd'hui sur ces modalités. Modalités que vous nous révélez ce matin, Fabien Cazot.
L'offre de Ford se veut généreuse. Elle inclut une série de mesures, notamment en direction des salariés proches de la retraite. Une pré-retraite maison est prévue pendant 7 ans maximum, Ford s'engage à maintenir à ses ex-employés un revenu équivalent à 70% de leur salaire, en plus de l'indemnité conventionnelle versée au moment du départ en retraite et d'une indemnité complémentaire, 8 mois de salaire brut. Pour les salariés encore en âge de travailler, Ford détaille plusieurs mesures censées aider leur mobilité. En interne, tout d'abord, dans le groupe Ford, des aides au déménagement sont prévues, ainsi que des formations et une prime dite de reclassement, 6 mois de salaire brut si le nouveau poste se trouve à plus de 80 km du domicile des salariés. Pour les autres, Ford s'engage à trouver au minimum 3 offres fermes de reclassement à l'extérieur, en finançant là aussi des formations, des congés de reclassement et la prise en charge des éventuelles pertes de salaire jusqu'à 700 euros par mois pendant 2 ans.
Fabien Cazot, chef du service économie et sociale de France Inter. Quelle est la situation des femmes en France, dans la société, au travail ou dans leur foyer ? À 5 jours de la Journée internationale des droits des femmes, la Fondation des femmes publie une étude ce matin. 80% des Françaises estiment que l'égalité entre les femmes et les hommes ne s'est pas améliorée par rapport à l'année dernière. Pour plus d'un Français sur deux, la lutte contre les violences sexistes est une priorité. Et les inégalités salariales restent au cœur des préoccupations, Yann Gallic.
L'égalité salariale entre les femmes et les hommes devrait être une obligation selon 89% des personnes interrogées. 8 Français sur 10 estiment qu'avoir des enfants peut freiner l'évolution de carrière des femmes. Une majorité d'entre eux sont favorables à la mise en place d'un congé paternité obligatoire. Anne-Cécile Maillefer est la présidente de la Fondation des femmes à l'origine de cette étude.
Il y a plus de 24% d'inégalité de revenus entre femmes et hommes. Il y a une loi qui dit qu'il faut être à égalité, oui, mais sauf qu'en fait, dans la réalité, ça n'est pas le cas. On peut très bien essayer de faire en sorte que ce soit obligatoire et d'être beaucoup plus ferme avec les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale.
Mais pour la plupart des Français, il faut surtout agir contre les violences conjugales et sexuelles. Ce combat est désormais perçu comme un enjeu de société majeur.
Les Françaises et les Français, pour 95% d'entre eux, ce qu'ils souhaiteraient, c'est que les agresseurs soient plus sévèrement condamnés et qu'on prenne mieux en charge les femmes victimes de violences. Donc on voit qu'il y a une perception qui est en fait très proche de la réalité, selon moi. On a un problème avec la manière dont ce sujet-là, il est traité par la justice. Et avec la manière dont les victimes de violences aujourd'hui sont reçues, par exemple dans les commissariats ou les moyens qu'ont les associations pour les prendre en charge.
La Fondation des femmes lance aujourd'hui une grande campagne de communication pour recueillir un maximum de dons. L'argent récolté permettra de soutenir des associations qui viennent en aide aux femmes victimes de violences.
Il avait menacé de commettre un attentat. Il sera jugé aujourd'hui en comparution immédiate. Malek Chekat, le frère aîné du tueur du marché de Noël de Strasbourg, est mis en examen pour menace de mort en récidive. Récidive car il avait déjà été condamné en 2015. Sur Facebook, il avait publié des messages menaçants avec des photos d'armes à feu. Il est en détention provisoire. C'est la dernière ligne droite dans le procès de Mehdi Nemmouche à Bruxelles. Le verdict est attendu jeudi dans le procès du tueur présumé du musée juif de la capitale belge. En fin de semaine dernière, ses avocats ont plaidé et ils ont choqué les parties civiles. Laxmilota.
Mehdi Nemmouche avait demandé à la présidente du tribunal d'être patiente. Il affirmait qu'il s'exprimerait en temps voulu. Mais l'accusé a persisté dans son mutisme et c'est son avocat qui s'est exprimé. Une déception pour les parties civiles. Maître Courtois a durant 8 heures exposé sa théorie. Son client aurait été victime d'un complot iranien. L'avocat a tenté d'expliquer que le couple Riva, assassiné durant l'attaque, faisait partie du Mossad, les services secrets israéliens. Pour les parties civiles, cette défense est, je cite, « délirante et hallucinante ». Daniel Strenz est le frère de l'une des victimes. La défense de Mehdi Nemmouche a évoqué une supposée double vie d'Alexandre Strenz.
Il y a l'immunité du plaidoyer, mais il y a des choses qui se disent dans cette salle qui vraiment dépassent tout entendement. Je dirais que je suis... En même temps, je ne suis pas surpris. En même temps, je suis bouleversé, mais je ne suis pas encore choqué et je ne les laisserai pas me choquer.
Des parties civiles abasourdies, c'est dans ce contexte que le procès doit reprendre aujourd'hui. Demain, Mehdi Nemmouche aura une dernière occasion de s'exprimer. Bruxelles, Laxmilota, France Inter.
Beaucoup de porteurs de lunettes ou de lentilles en rêvent guérir de leur myopie. Guérir de leur myopie par de simples gouttes dans les yeux. Les chercheurs en sont au stade expérimental. Mais une start-up israélienne a réalisé des essais prometteurs sur des animaux. Et un jour peut-être, Véronique Julia, il sera possible de corriger la myopie avec seulement quelques gouttes.
Pour la petite histoire, le docteur David Smadja, ophtalmo à l'hôpital Shaare Zedek de Jérusalem, raconte avoir eu l'idée de ses gouttes il y a 3 ans, au soir d'une grosse journée de travail, alors que ses yeux étaient secs et que sa vue fatiguait.
En fin de journée, j'ai mal à la tête. Je me suis dit, il me faut des gouttes. Si les gouttes en elles-mêmes comportent des propriétés particulières qui peuvent changer la trajectoire de la lumière, ça devrait pouvoir marcher.
Plusieurs réunions de travail plus tard, avec des chercheurs de l'université Bar-Ilan de Jérusalem, le concept était né. Un premier essai sur des yeux de cochon s'avère concluant. L'idée pour corriger la vue, c'est de modifier le trajet de la lumière dans l'œil. Pour y arriver, un laser va faire des trous minuscules sur la cornée et y tracer un motif. Les gouttes oculaires composées de nanoparticules vont ensuite s'engouffrer dans ces trous.
On va créer une toute petite porte d'entrée avec un laser. Chaque motif correspond à une correction. Les petites nanoparticules vont rentrer dans ces petits motifs qu'on a faits. Et quand la lumière va traverser, elle va changer de trajectoire selon ce qu'on voulait.
À ce stade, beaucoup de questions se posent encore. Jusqu'à quel niveau peut-on corriger la vue? Peut-on aller jusqu'à des myopies lourdes? Combien de temps durent les petits trous sur la cornée? Et donc l'efficacité du système? Plus tard se posera aussi la question de pouvoir faire l'empreinte des petits trous au laser tout seul chez soi. Le système est breveté depuis 1 an. D'autres études sur l'animal doivent être menées dans les mois qui viennent. L'essai sur l'homme devrait théoriquement commencer début 2021.
Ouais, passionnant. Et rassurez-vous Nicolas, les petits trous dont parle Véronique Julia sur les yeux, eh bien, c'est sans douleur et sans danger. Ils font la taille d'une cellule.
Il est 8h14 pour finir. finir, Frédéric, un œil sur des partitions.
Des partitions pour piano signées Carl-Philippe Emmanuel Bach, le deuxième fils de Jean-Sébastien. Ses compositions sont à découvrir dans Tempérament, le nouvel album de la pianiste Shani Di Luca. Elle a été enregistrée avec l'orchestre de chambre de Paris sur deux pianos différents. Et c'est un enchantement, Stéphane Capron.
Ce sont les premières notes de l'Andante con Tenerezza de Carl-Philippe Emmanuel Bach. Il ouvre l'album. Il est joué sur un piano moderne. Et voici les premières notes jouées sur un piano de 1790. La sonorité est plus fragile que pour un piano moderne. Le jeu de la pianiste s'en ressent. Ce piano est un Walter. C'était le piano préféré de Mozart. Shani Di Luca a voulu se mettre dans la peau des interprètes du 18e.
Ça m'intéressait de faire découvrir le son qu'entendait Mozart à l'époque. Ce sont des sons beaucoup plus abstraits, beaucoup plus tendres, beaucoup plus fragiles. Il y a une hypersensibilité de l'échappement de la touche. Parce que l'histoire du piano, c'est vraiment une histoire qui est aussi en parallèle avec notre époque. Aujourd'hui, j'ai appelé tempérament parce que les tempéraments ont changé. On joue plus brillant, on joue plus tendu pour pouvoir projeter dans des grandes salles. Et c'est aussi, je trouve, une sorte de métaphore de notre époque, d'aller dans quelque chose de plus performant. Et à l'époque, c'était beaucoup plus fragile. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi, de défendre cette fragilité qui est le propre de l'homme.
L'album a été enregistré dans un lieu propice à la recherche, l'abbaye de Royaumont. Les micros ont été posés très proches des cordes. On entend la mécanique, le bois, c'est l'âme du piano qui se révèle.
Tempérament de Shani Di Luca, ça vient de sortir chez Mirare. On s'en lasse pas, hein ?
Absolument pas. Merci beaucoup Frédéric Mettezo.